Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue pour ce 82e épisode, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel échange, j'ai reçu Jingo, la cofondatrice et CEO de Connexio, une association et un organisme de formation qui forme compétences numériques, des plus basiques aux plus avancées, afin de faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Née en Chine, Jin est une entrepreneure américaine qui a notamment été diplômée des prestigieuses écoles de Stanford et d'Harvard. Elle arrive en France à l'été 2015 dans le cadre du programme Fulbright pour étudier à la Paris School of Economics, où elle mène des recherches sur les difficultés économiques et sanitaires des populations marginalisées. C'est fin 2016 qu'elle lance Connexio avec sa cofondatrice Binta Jamet. J'ai rencontré Jin en mai dernier pour le Web Today, un événement tech très cool organisé à Nantes, où j'ai eu l'opportunité d'être l'hôte de sa conférence qui avait pour sujet « Comment anticiper le marché du travail de demain tout en le rendant inclusif ». C'est en préparant ce talk à ses côtés que je me suis rendu compte à quel point la fracture numérique touchait tout le monde, et pas seulement les personnes âgées. Une étude de l'INSEE révèle notamment que 17% des Français sont concernés par l'illectronisme, à savoir la difficulté, voire l'incapacité à utiliser les appareils numériques. Avec Connexio, Jin propose des formations gratuites aux compétences informatiques et métiers de la tech pour ouvrir à toutes et à tous les opportunités du numérique. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire et son parcours des États-Unis à la France, la création de Connexio et les différentes étapes de développement, quels sont les enjeux de l'inclusion numérique selon elle, et à qui s'adressent les formations de Connexio, qui peut y candidater. Cet épisode est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous, et on se retrouve lundi prochain. Bien, salut Jin, comment tu vas ?
Salut François, ça va ? Et toi ?
Très bien, je suis très content de t'avoir dans le podcast. Je pense que ça va être un échange plutôt cool. On va discuter de ton parcours, de Connexio et puis d'entrepreneuriat forcément, hein, c'est le sujet du podcast. Nous, on s'est rencontrés au Web Today à Nantes, donc un super événement sur le web. Et du coup, ça m'a permis de découvrir ton profil, ton parcours. J'avais très envie de t'accueillir dans Serial Entrepreneur. Donc chacun de mes épisodes, je commence justement sur le parcours avant d'entreprendre. Toi, je sais qu'il est, très riche, même si t'es encore jeune, hein, 30 ans finalement. t'as un sacré parcours. Tu es né en Chine, tu es américaine et du coup, tu as entrepris en France. Est-ce que tu veux me parler de ce parcours et me détailler un peu les grandes étapes jusqu'à ce que tu entreprennes finalement?
Oui, bien sûr. Donc déjà, en fait, super de te revoir en fait, et cette fois à Paris. Pour moi, je dirais en fait, j'ai toujours eu un peu ce parcours à la fois très multiculturel et aussi un peu atypique, parce que je pense que je pensais en fait être la personne qui définit un peu chaque étape. J'ai un plan de 5 ans, 10 ans, et finalement tu trouves que c'est pas si simple et c'est pas si facile de faire ça. Mais je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis en Californie, et j'avais eu la chance de pouvoir aller à Stanford pour mes études universitaires. Et comme quelquefois je suis passionnée par plusieurs choses en même temps, je pense que ça c'est un peu peut-être un fil rouge dans mon parcours, c'est je suis passionnée par des choses et quelquefois je vais pas en fait vraiment avoir en fait fixé sur un plan en talent terme, mais je vais juste chercher ce qui m'intéresse. Et donc, c'était dans ce cadre-là, en fait, j'avais par exemple fait deux formations, donc une formation en biologie et l'autre en économie, donc qui ne sont pas très liées. Et après ça, j'étais consultante, donc je suis restée in the Bay Area, donc près de San Francisco, parce que ça m'intéressait. Et j'ai travaillé pour des boîtes à la fois biotech, parce que j'étais toujours intéressée par la santé, et aussi des boîtes tech, vu que c'était Silicon Valley, j'étais un peu dans ça. Mais au bout d'un moment, je voulais un peu changer aussi, parce que je voulais chercher aussi de comment je peux mettre certaines de mes compétences, parce que j'avais aussi un profil plutôt quantitatif sur la data. Je faisais en fait des projets qui analysaient en fait et qui mettraient plutôt en fait profil mes compétences analytiques sur des différents projets dans en fait la sphère consulting, mais au bout de moi je vais mettre ça aussi pour d'autres en fait projets et aussi peut-être à la bénéfice des projets plus impact. Et donc j'avais eu cette chance d'avoir la bourse Fulbright en 2015, qui est une bourse d'échange franco-américaine. Pour moi, j'avais choisi un travail sur un projet qui portait sur l'inclusion des publics des population immigrée et les enjeux d'accès en fait à différents services sociaux et aussi des services de santé. J'étais attachée à the Paris School of Economics. Mmh. Donc en 2015, quand je suis arrivée, elles étaient vraiment tout ce travail sur le temps pendant 2 ans. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es économiste, tu vois que des bases de données et tu vois pas vraiment les vrais enjeux sur le temps. Et c'était en fait dans ce cadre-là. Par exemple, je suis allée sur le temps, j'ai passé des entretiens dans ce qu'on s'appelle des PASS à Paris. C'est des permanences aux soins pour les personnes qui sont des cliniques en fait, qui sont vraiment dédiées pour les personnes qui sont hors système santé, qui n'ont pas en fait un sécurité sociale, qui sont peut-être des personnes sans domicile, des personnes en fait qui sont sans papier. Donc c'était un peu ces rencontres-là, la situation qui se passait en 2015 aussi, qui m'a montré sur des problèmes en fait d'avoir d'accès en fait des premiers services, donc les services de première ligne qui peuvent être le logement, les santé, ces services de base. Il y avait des solutions en fait et des services qui étaient très importantes, mais quand j'ai parlé avec certaines personnes justement qui étaient soit arrivées en France quelques mois jusqu'à quelques années, il y avait cette histoire qui était remontée et remontée encore, qui était ils avaient peut-être accès à des services de base, mais il y avait quand même en fait un trou quelque part pour en fait comment je vais pouvoir en fait aller plus loin dans ma vie d'intégration sociale et professionnelle. Et pour moi en fait aujourd'hui en fait le numérique, il y a une place super importante. On avait tous vu ça aussi avec le Covid dans nos vies quotidiennes, nos vies professionnelles. Et donc, c'était un peu comme ça, je suis arrivée un peu à créer un projet qui est devenu Connexio, d'essayer de voir qu'il y avait un besoin derrière. Et d'autre part aussi, en fait, encore en termes de solution, quelque chose qui était peut-être encore en fait en manque.
Tu t'es vite rendu compte des problématiques autour du numérique finalement. On reviendra sur ce beau projet qui est Connexio juste après. J'aimerais revenir avec toi sur ta période d'études finalement, où tu as étudié à Stanford et à Harvard. Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'études?
Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Je pense que pour moi, en fait, j'ai appris pas mal de choses. Je pense que j'ai tout retenu. Pour moi, je pense que ce qui était important aussi, c'est de savoir que en fait, en tout cas, peut-être ça c'est une approche aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est américaine ou en fait dans d'autres cultures, mais le fait aussi qu'on peut vraiment challenger des choses. En fait, d'une manière en fait générale, parce que j'ai en fait appris des choses assez passionnantes en fait sur dans le domaine de la biologie, comment ça marche aussi les principes économiques dans notre monde et le marché aujourd'hui. Mais on ressent en fait des compétences vraiment en fait plus des concepts plus intellectuels. C'était de ce fait aussi que j'avais eu des profs en fait dans ces universités qui ont dit mais il faut challenger en fait le statu quo parce que en fait et vous êtes un peu ces future génération chez nous. Donc, en fait, oser, en fait, briser des choses, challenger un peu comment les choses sont faites, parce que c'est pas fixe. Parce que peut-être dans l'école plus petite, on a cette impression que tout ce qu'en fait, qui est donné à nous, c'est un peu la vérité. C'est comme ça, ça marche et on questionne pas. Et je pense, donc, quelquefois, c'est ça peut être déstabilisant aussi pour certaines personnes de dire, ah oui, tout ce que j'avais appris jusqu'à là, les hypothèses, les règles de comment ça marche le monde, ça peut changer. Donc, je pense qu'il y a une liberté derrière, mais aussi ça challenge un peu comment aussi nous-mêmes on peut être avoir une contribution aussi dans ce monde de futur. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de à la fois en fait d'un côté de optimisme aussi sur en fait que on peut en fait chacun et chacune on peut faire, et d'autre côté aussi un peu d'inquiétude parce que ça veut dire que c'est très large et ça peut aussi être un peu effrayante.
Ouais, donc un côté vraiment challengeant, et puis j'imagine aussi à travers ses études, ses professeurs, le bon moyen d'éveiller sa curiosité finalement sur plein de sujets, comme tu l'as fait, sur des sujets très différents, mais finalement potentiellement parfois qui peuvent être liés aussi.
Exactement, je pense pour moi par exemple, donc j'avais vraiment testé des choses chaque année en université. J'ai vraiment fait parce qu'on faisait beaucoup en fait des stages, des différentes expériences. Chaque année, j'ai testé un monde super différent. Mon première en fait après mon première année en université, j'ai travaillé créé en fait plutôt pour le gouvernement en fait en Californie. La personne en fait qu'on s'appelle State Controller, c'est la personne en gros qui gère les finances pour tout l'État. Donc un État qui est en fait en termes de puissance en fait économique, ça peut être le 8e pays du monde techniquement. Donc c'était super intéressant de entrer en fait dans ça, ce monde-là qui était vraiment quand même plus politique, gouvernement. L'année après, j'avais travaillé dans un laboratoire qui étudie en fait le vaccin polio. Donc complètement différent, mais je voulais tester en fait cet autre monde. Et après, troisième année, j'avais fait en fait plutôt quelque chose peut-être plus classique, qui était mon parcours économique, où en fait j'ai fait un stage dans une boîte consulting. Donc, mais pour moi, c'était je voulais tester. Il n'y avait pas de, comme on dit en anglais, c'était moins en fait des risques, moins high stakes, parce que encore plus jeune, c'est un peu le moment de découvrir des choses.
Et justement, plus jeune, c'est aussi le meilleur moyen de, comme tu dis, de tester un maximum de choses pour finalement trouver la voie dans laquelle tu veux aller et finalement pouvoir changer les choses dans cette voie-là, en fait. C'est en testant un maximum de choses que tu t'es retrouvé à voir toutes ces problématiques autour du numérique, finalement.
Exactement, et je pense que pour tout le monde qui découvre encore, après je pense maintenant même sur le parcours d'entrepreneuriat, même si on est dans une entreprise et ça va être l'intrapreneuriat, je pense tout le monde, on va être plus entrepreneuriat dans preneurial, en fait dans toutes nos vies aussi, quotidien, professionnel aussi. Je trouve cet esprit-là, en fait, ça ne nous échappe pas de test and learn, de découvrir constamment des nouvelles choses, d'améliorer aussi.
Et ma dernière question sur cette partie parcours, c'est quelle a été l'expérience qui t'a le plus marqué avant d'entreprendre?
Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences super intéressantes. Pour moi, peut-être, par exemple, j'avais fait, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je pensais que je voulais faire une thèse en économie, donc je partais un peu dans tous les sens aussi.
C'est bien, parfois.
voilà, et parce qu'il y a un moment où je ne savais pas si je voulais faire un business school ou je voulais faire, en fait, une thèse en économie. Il y avait un moment où je ne pouvais pas choisir à chaque fois. Voilà, mais comme j'ai plusieurs passions, dans ce cas-là, en fait, juste après avoir fini mes études, je suis partie, par exemple, quelques semaines en Uganda avec un professeur qui était dans le domaine économie de la développement. Donc, tout ce qui est, en fait, des projets en fait dans en fait certains pays, comme en fait on est parti en fait dans des villes assez rurales en Ouganda pour étudier en fait des mesures de comment en fait aider les gens en fait mieux épargner, les enjeux de santé aussi quand tu as pas des cliniques ou la clinique la plus proche de santé est 50 km, qu'est-ce qu'on fait, que c'était super intéressant en fait de faire ça. Et donc elle nous a laissé un peu sur le terrain en fait aller en fait avec des enquêteurs, en fait juste poser des questions, explorer, peut-être découvrir d'autres thématiques de recherche. Et quelquefois je pense que ce qui m'a en fait une expérience en tout cas qui m'a marqué beaucoup, après peut-être ça peut être évidente, c'est que je pense que quelquefois en fait on peut en fait penser que dans un monde en fait qui est de plus en plus divers, en fait on a des gens avec des opinions super différentes un peu de partout. J'avais eu des échanges, des entretiens avec certaines personnes qui m'ont montré, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui nous relient en fait tout le monde ensemble en termes de notre valeur, de comment on voit peut-être en fait la famille, l'éducation, un peu le futur. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui pour moi en fait c'était en fait super touchante, et aussi parce que ça montrait que n'importe quel coin on est dans le monde, on a quand même en fait des choses, des valeurs universelles qui appartiennent en fait à l'humanité.
Exactement, malgré effectivement toutes les différences de culture, finalement il y a des choses qui effectivement comme tu dis sont complètement universelles en fait, comme voilà la famille, etc., ce genre de choses. Donc c'est important de se le rappeler finalement. J'ai aussi envie de parler de la bourse Fulbright, qui est quand même une bourse plutôt réputée que tu as obtenue. Et je crois qu'aujourd'hui tu fais partie du comité de sélection de la bourse.
Je fais partie, oui, de membre de board de la commission, ouais.
Est-ce que tu veux me parler un peu de cette bourse et de ce qu'elle t'a permis de faire finalement?
Bien sûr. Donc pour moi et peut-être pour ceux qui connaissent pas encore la bourse Fulbright, c'était vraiment quelque chose qui date même en fait de la fin de Deuxième Guerre mondiale, où on se poser justement ces questions de... Il y avait en fait deux grandes guerres en fait dans un espace de juste 30-40 d'années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux favoriser des liens entre des pays? Et donc, c'est en fait un type d'échange entre les États-Unis et beaucoup de pays dans le monde, où l'objectif, c'est d'avoir en fait des boursiers qui sont en fait envoyés dans les deux sens. Donc, par exemple, pour moi, je suis américaine, je suis venue en France, et vraiment d'approcher des différents sujets. Pour moi, j'avais quand même toujours en fait eu cet angle un peu comparatif, parce que, par exemple, même sur les questions de système de santé, c'est super différent entre les deux pays. Le plus différent peut-être parmi... et donc, j'étais curieuse. Je voulais, en fait, étudier ça. Comment, en fait, ça se fait. En fait, comment ça s'applique aussi. Quelles sont les conséquences, en fait, des différents systèmes. Et après, donc, pour moi, la bourse, en fait, c'était vraiment, en fait, quelque chose qui m'a permis de venir ici dans un premier temps en 2015. Et je trouve que pour moi, en fait, à la base, je n'avais pas forcément certaines attentes. Pour moi, je voulais, en fait, vraiment juste faire mes projets de recherche, vraiment étudier bien. Et dans ce parcours, à la base, il y a quelques années, peut-être sur un parcours académique, de éventuellement, en fait, étudier, faire une thèse en économie et d'aller même dans un parcours très, en fait, universitaire. Et donc, c'est ça qui m'a quand même aussi... en fait, d'une manière pas prévue, donner en fait les grains, enfin les premières idées aussi.
De
lancer Connexio. Mais aujourd'hui, je trouve que des initiatives comme ça, donc ça peut être le Fulbright, mais plein d'autres choses, sont des belles exemples des initiatives aussi qui essaient de vraiment plus en fait fédérer. En fait, ramener du monde ensemble au lieu de vraiment cliver. En fait, parce que je vois que même selon ces dernières années, en fonction de où on est dans le monde, il y a quand même des opinions qui sont vraiment divisées parce que les enjeux politiques, il y a des choses qui ne doivent même pas être politisées, qui sont. Donc voilà, mais je trouve que ces initiatives comme ça qui me permettent de faire des rencontres, des échanges entre des différentes personnes, parce que les boursiers aussi sont tellement des différents domaines. De l'art, de l'histoire, de mathématiques, vraiment tout domaine aussi. Je trouve ça assez bien parce qu'on favorise plutôt en fait nos intérêts qui en fait nous relient ensemble, parce que c'est pour quelqu'un qui en fait est une personne qui est française mais qui va étudier ou en fait travailler sur un sujet en fait avec un professeur, avec une équipe, une université aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment en fait là pour essayer de pousser plus loin en quoi ensemble toutes les frontières scientifiques de nos futurs. Donc,
Tu lances Connexio fin 2016. Est-ce que tu peux me raconter un peu en détail le moment où tu t'es dit « Ok, je vais lancer Connexio ». Et juste avant ça, je vais quand même préciser ce que c'est Connexio. C'est une association et un organisme de formation qui forme aux compétences du numérique, donc des plus basiques aux plus avancées, et afin de faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Est-ce que tu peux me parler vraiment de ce moment, tu vois, qui a été pour toi un véritable changemaker, tu vois?
Je pense que, en fait, dans un premier temps, et je sais que j'ai dit ça en fait dans d'autres occasions, en fait, c'est que si j'avais su peut-être tous les freins, les barrières, les obstacles.
Tu l'aurais pas fait?
Non. Parce que je pense que j'étais quand même super naïve. Je me dis, ah ok, je viens d'arriver dans ce pays, je vois qu'il y a un problème. Je pense que je voulais juste lancer. J'ai pas en fait eu cette. En fait, comme pour moi, je suis un peu, je pense, la catégorie d'entrepreneur qui est vraiment en fait impactée par un problème que je veux résoudre. Et j'étais pas toujours, parce que j'avais tellement d'amis à Stanford, ils sortaient, ils savaient depuis en fait 18 ans qu'ils voulaient être entrepreneurs. Pour moi, j'avais jamais eu ce bug de vouloir être entrepreneur. Presque, j'étais un peu contre, je me dis, vous êtes que des entrepreneurs, je veux pas être. Je voulais en fait être un peu la minorité en fait dans ça, que ça m'a jamais en fait attiré. Mais je pense que pour moi, j'étais vraiment cette deuxième catégorie, peut-être des personnes qui étaient vraiment plutôt vraiment attirée par le problème. Et je me dis, mince, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de traiter, en fait, le problème. Et c'est comme ça, en fait, j'ai un peu suivi ma passion, en fait, et j'ai créé quelque chose de plus long. Mais je pense que tout au début, l'objectif, c'est de vraiment proposer, avoir une initiative qui aide des personnes tout de suite. Et donc, c'est comme ça, je pense qu'une... en fait, quelque chose qui m'a, en tout cas, un moment qui a marqué beaucoup, en fait, les débuts de Connexio, c'est qu'on avait lancé, en fait, les premiers cours. Parce que tout au début aussi, comme j'avais pas des sous, j'avais juste une idée, je parlais un peu mal français, j'essayais de pitcher Connexio. Tout au début, je suis allée, en fait, à la rencontre des potentielles salles de formation. Et sur une quinzaine, il y a 14 qui m'ont refusé parce que soit j'avais pas, en fait, l'argent parce qu'il fallait payer pour les salles. Ils n'ont pas peut-être très bien compris aussi le projet non plus, pour plein de raisons en fait, mais j'avais eu en fait juste une structure qui voulait tester, et je pense que ça a commencé comme ça. Et à la fin de ce tout premier groupe des personnes, j'ai découvert que j'avais eu 3 apprenants qui étaient des personnes réfugiées qui venaient de la Soudan, et ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Et donc c'était un cours de 5-6 semaines quand même, donc ils sont venus, ils sont restés en fait la nuit, en fait comme on avait plusieurs séances, et ensuite ils ont parti en fait, donc, mais ils ont fait ça. Et je me dis, c'est aussi d'un côté, ça montre la motivation de certaines personnes à réussir, et d'autre côté, je me dis, le fait que quelqu'un ait venu physiquement si loin, est-ce que ça montre aussi que peut-être il y a vraiment en fait manque de solutions?
Un potentiel outre Paris, effectivement, partout en France, dans d'autres villes. Sur ces premiers mois, du coup, tu apprends le français super vite.
Juste pour dire, en fait, c'est pas tout simplement, je suis pas si rapide, mais j'avais techniquement commencé à apprendre au lycée.
Ouais. Donc, tu avais des bases?
J'avais des bases, ouais. J'avais un peu, au moins, la base un peu des règles, en fait, de grammaire, des bases, mais c'est vrai, sur la partie orale, c'était pas si évident tout au début parce que. Je pense que, en tout cas, en 2015, je pense que j'ai compris à peu près la moitié de ce qui était dit. mais pour moi aussi, c'était important aussi, bon moment pour moi de travailler, par exemple, sur les projets de recherche, de quand même bien prendre le temps de comprendre, parce que si j'ai bien étudié un sujet, bien comprendre les besoins, il faut qu'on passe aussi par la langue pour la compréhension, pour beaucoup d'autres choses qui sont plus nuancées. Donc ça m'a pris du temps, oui. Et je pense que vraiment, si en fait, même si vous écoutez des choses que j'avais fait il y a quelques années, c'est pas du tout peut-être pareil que. Voilà. Mais je pense que c'est comme toutes les choses bien qu'on sûr. Croit en chez Kinexio, c'est une amélioration en fait continue.
Bah, l'apprentissage est continu de toute façon toute sa vie, hein, finalement. Tu cofondes Connexio, tu n'es pas toute seule, tu es cofondatrice, tu cofondes ça avec Binta Djamé. Comment tu rencontres Binta?
Donc, grâce au Fulbright, justement.
Okay.
Elle avait participé, mais un an après moi, le même programme. Donc, elle est aussi boursière et elle a fait aussi plutôt ce qui s'appelle Teaching Assistant. Donc, elle était enseignement de langue, donc l'anglais. Dans un lycée.
Ok, très bien. Et ces premiers mois, comment est-ce que tu fais pour conceptualiser le programme de Connexio, le programme de ces formations?
Donc, tout au début, je pense qu'on était vraiment à toute petite échelle. Donc, pour nous, on savait qu'il fallait en fait vraiment travailler sur cette initiation, en fait, culturation au monde numérique. Donc, on avait, en fait, je pense que c'était un peu tout ça qui est... Je pense que tout au début, c'est quand même difficile. Après, on a des challenges à chaque niveau. Mais tout au début, c'est de vraiment poser des questions parce que ce qui était bien d'un côté, c'est qu'il y avait des besoins. Donc, on avait une liste d'attente même tout au début auprès des structures avec qui on travaillait très localement. On avait trouvé cette première salle. Et après, il fallait vraiment avancer et vraiment développer un peu le contenu. Donc ça, on avait développé avec un autre groupe, plutôt des bénévoles, tout au début, pour vraiment concevoir du contenu qui paraît en fait quand même accessible, mais aussi qui aidait des gens en fait à aller plus loin. Donc je pense que ça, on avait vraiment commencé à toute petite échelle avec une personne, en fait, un groupe d'apprenants qui est devenu deux groupes, quatre groupes. Donc, vraiment, on a testé. Donc, je pense que les premières deux années jusqu'à mi-2018, c'était vraiment des tests, en fait, vraiment pilotes, vraiment à petite échelle. On avait jusqu'à, en fait, je pense que jusqu'à les en fait, premières 200 personnes ont passé un peu dans ces groupes beaucoup plus petites en termes d'échelle d'activité.
Donc, des sujets les plus importants, les plus demandés, finalement, au départ.
Oui.
Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple, de formation au départ?
Oui, pour nous, en fait, je vais en fait, quand même aider des personnes à comprendre c'est quoi le monde numérique déjà aussi. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, dans ce qu'on entend, en fait, dans le news, sur la radio, des différences aussi. Le numérique, c'est,
bien sûr.
C'est beaucoup des choses. Et si on veut vraiment travailler dans le numérique, en fait, être en fait, sur un des métiers, donc pour nous, on a commencé plus simple, en fait, découvert du code, en fait, ces workshops, pour vraiment en fait, essayer des gens de comprendre. Ok, si je fais ça, qu'est-ce que ça en fait va dire? Qu'est-ce que ça va être pour créer ma première site web? Vraiment d'aller dans des petits projets, de vraiment en fait mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre. Sinon en fait ça reste un peu très théorique presque et pas en fait si facile en fait vraiment d'entrer dedans où il y a des perceptions en fait que c'est juste pas pour moi parce que le numérique ça a l'impression c'est très peut-être ça demande beaucoup de maths, ça demande beaucoup de certains types de compétences et donc en fait d'un côté c'est un peu démystifié. Et aussi, d'autre côté, c'est quand même de montrer, en fait, du concret, en fait, qu'est-ce que ça va être sur une base de projet. Donc, voilà. Donc, ça, c'était, en fait, parmi les premiers sujets. Un deuxième, c'était aussi sur tout ce qui est vraiment la culturation des bases, en fait, les compétences, en fait, numériques pour nos vies, en fait, dans la vie pratique, tout ce qui est démarche administrative, la partie aussi vie professionnelle, de justement toutes les démarches d'aller vers l'emploi. Aujourd'hui, de plus en plus, qui nécessite justement, en fait, un prise en main en fait des outils numériques. Donc on était beaucoup sur ces premiers sujets et ensuite on avait développé et lancé des programmes plus intensifs, donc des formations certifiantes qui va aller juste à des titres professionnels. Mais on a vraiment en fait développé en fait au fur et à mesure selon les besoins, ce qu'on attendait aussi, ce que cherchaient les apprenants. Et au bout d'un moment on a dit, parce que ça faisait en fait un moment qu'on avait fait des parcours plus courts, des ateliers en fait plus courts, et au bout d'un moment nos apprenants ont dit mais on attend la formation certifiante.
Long.
Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait on, et on veut ça avec Connexio. Et à force d'avoir en fait entendu ça depuis des mois et des mois, on a dit ok, on lance, on va essayer de tenter à lancer nos premiers programmes.
Ouais, un fonctionnement vraiment 100% sur du feedback, et en même temps c'est ce qui est le plus efficace, de parler directement avec les gens qui en ont besoin et de faire évoluer le produit finalement en fonction de ça, quoi. Donc 2016-2018, si j'ai bien compris, phase de test. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, un peu les grandes étapes de Connexio?
Donc c'était en mi-2018 aussi pour moi, en fait j'avais décidé d'être finalement à temps plein, parce que pour moi je pense que c'est un peu je pense que je suis peut-être parmi les entrepreneurs, je sais pas, parmi en fait les autres aussi avec tu as changé, mais pour moi en fait j'étais quand même un peu prudente déjà aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais tester, c'était pas du tout dans mon plan de vie de devenir entrepreneur, mais au bout d'un moment il fallait faire un choix, parce que soit ça restait quand même un projet plus petite échelle, voilà, qui était menée, qui peuvent continuer, mais je sentis que derrière, il y avait quand même un besoin de vraiment amplifier ce qu'on faisait. Et donc, c'était à ce moment-là, en fait, j'ai fait un peu le choix. En fait, c'est soit on peut continuer sur la même, je pense que la même route, mais ça reste quand même petite, ou ça c'est en fait 100% ou 200% et on y va au fond. Et donc je pense que ça c'était un moment clé. Ensuite pour nous, je pense que, et je cite ça aussi, je pense qu'il y avait un moment en fait important pour nous qui était en 2019, parce qu'on avait remporté le premier prix de Google Impact Challenge. Et ça nous a aidé aussi parce qu'on a commencé à avoir en fait une équipe plus importante. Donc en 2019, on était déjà en fait plus d'une dizaine. Mais je pense qu'avec ce prix-là, ça nous a aidé vraiment en fait à changer d'échelle. On avait commencé nos activités en fait au Paris aussi, en Île-de-France, en d'autres régions, en d'autres pays aussi en 2019. Donc ça a vraiment commencé à développer à plusieurs niveaux, plusieurs échelles.
Alors, j'aimerais revenir quand même sur le fait que tu n'étais pas à 100% les deux premières années. Tu faisais quoi à côté?
Les projets de recherche. Donc, okay. J'étais toujours...
Oui, effectivement, sur tes projets de thèse, de recherche, etc. Mais autour de sujets finalement reliés à la fracture numérique, ce genre de...
Oui, plutôt avec cette... Oui, c'est casquette plutôt d'études, d'approche. Okay. Où, mais pour moi, c'était important parce que, oui, bien ça sûr. M'a aidé à vraiment comprendre les besoins des personnes pour ensuite proposer des solutions qui... Oui. Vraiment en fait correspondait à leurs besoins. Mais oui, je pense qu'au bout de moi, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais plutôt passé en fait les soirs, les week-ends, pendant quand même un moment. Voilà.
Oui, c'était pas un projet complètement différent de Connexio. C'était quand même, voilà, il y avait certaines liaisons, même beaucoup. Après, on arrive en 2020, donc la période de pandémie. Comment ça se passe pour Connexio? Quel impact la pandémie a sur l'entreprise?
Ouais, je pense qu'il y avait eu un double effet d'un côté, parce que d'un côté c'était comme pour beaucoup de structures, beaucoup d'incertitudes, beaucoup aussi des enjeux, parce qu'on avait dû fermer, on avait fermé, ensuite quelquefois on a réouvert en fonction de ce qui était possible, mais c'était cette adaptation permanente face à la situation, je pense que qui quand même pose un peu lourd sur les équipes aussi, parce que on pense qu'on avait en fait trouvé une situation, en fait un scénario, et ensuite en 2 semaines on change soit la situation, parce que ça a passé de confinement à couvre-feu et ensuite beaucoup d'incertitudes. Pour nous, ce qui était important, c'est de déjà en fait assurer que nos apprenants allaient bien. Est-ce qu'il y avait d'autres? Parce que pour nous, c'était d'assurer en fait qu'il y avait vraiment parce qu'il y a des besoins primordiaux aussi chez certains de nos apprenants, comme ils n'avaient plus en fait pas pu accepter certaines choses. Par exemple, on avait fait des sondages qui nous ont permis de découvrir que c'était plus de moitié de nos apprenants qui avaient soit en fait ni l'équipement ou ni la connexion, qui est assez important et assez dramatique aujourd'hui si on est un peu coupé de soit la connectivité ou soit en fait un utile assez performant. C'est presque comme on est coupé en fait du monde.
Surtout en période de confinement, c'est-à-dire que si on n'a pas une connexion enfin le minimum de connexion, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, on est coupé du monde, quoi.
C'est, ouais. Et donc pour nous, c'était vraiment d'assurer qu'il y avait quand même, s'il y a des besoins, en fait, on peut les aider, en fait, les orienter vers d'autres partenaires, même en fait, s'il faut une question d'isolation, en fait, la création de liens aussi pendant cette période. Et après, dans un deuxième temps aussi, je pense qu'il y avait des adaptations. On avait dû justement introduire, en fait, chez Connexio, on avait en fait fait évoluer certains de nos parcours qui sont maintenant en fait aussi en ligne. Donc, vraiment d'avoir en fait d'autres offres qui a caractérisé Connexio. Et après, pour nous, c'est aussi d'avoir une prise de conscience assez importante aussi parce que d'un côté, en fait, nous, on avait dû adapter nous-mêmes. Et pour moi, je pense que c'était ce que j'avais aussi dit à certaines de mes équipes depuis le début, c'est il n'y aura pas un monde back to normal. En fait, ça ne va pas revenir en fait, jusqu'à ce qui était avant. Il y a juste un monde après le COVID et avant le COVID. Et je pense que les structures, en fait, si on a bien saisi ça, il faut en fait adapter et sortir plus résilient, plus forte. Et donc, c'était un peu, je pense, un peu la mentalité qu'on voulait adopter chez Connexio, c'est que parce que notre mission, on a vu aussi, il y avait une prise de conscience plus importante parce qu'aujourd'hui on voit que vraiment c'est difficile de passer d'éviter en fait de passer par le numérique dans tous les aspects. Après, il y a quand même des lacunes, des différences de usage assez importantes et il y a certaines qui quand même vont empêcher en fait une réussite socio-professionnelle si en fait on n'a pas bien pris en main, en fait bien accompagné des personnes. Donc pour nous aussi, il y avait cet côté qu'il fallait vraiment en fait faire plus peut-être même de travail de sensibilisation, même si maintenant en fait avec le Covid, on est plus consciente, mais il y a quand même en fait certaines informations qui en fait sont importantes de continuer à passer aussi, de dire que ça va pas arrêter même avec ça, ça va continuer à accélérer. On a juste sauté plus rapidement dans le futur qu'on avait anticipé il y a 2 ans. Et maintenant, comment on fait pour adapter et assurer que les personnes les plus impactées sont pas ceux qui sont les plus vulnérables?
Tu t'es très rapidement rendu compte en fait que la pandémie allait transformer complètement les usages et au final on s'est rendu compte voilà de l'explosion de la visio, l'explosion des outils autour de la visio. Et effectivement ces usages là si on les maîtrise pas à ce moment-là effectivement on est coupé quoi clairement hein. Donc c'est important justement de s'être rendu compte rapidement de ça en fait pour faire évoluer aussi le programme potentiellement de Connexio et l'orientation la vision de l'entreprise. Donc j'imagine que ça a été un moment important quand même pour la vision stratégique en fait de Connexio.
Oui, pour nous, je pense que en 2021, en 2022 encore, je pense qu'on va continuer à adapter.
Bien sûr.
Parce que on a en fait nos activités qui vont vraiment cibler des personnes qui sont sur peut-être ces premières briques d'inclusion numérique, des personnes qui veulent aller vers ces métiers de demain, donc en fait aller découvrir, avoir en fait des activités plutôt de sensibilisation jusqu'à des programmes certifiants qui débouchent vers un titre professionnel. Mais aussi, je pense qu'on a commencé depuis 2009 de adapter des formations en fait au niveau des structures. Donc ça peut être en fait nos tout premiers en fait partenaires ou clients étaient des structures de l'OSS qui étaient des associations jusqu'à des entreprises sociales, des collectivités. Et maintenant de plus en plus on a des entreprises de plus petite taille à de plus grande taille qui ont justement en fait identifié que la digitalisation était un jeu super important. Il y a des entreprises aussi qui veulent adopter des nouveaux outils, qui veulent intégrer ça dans leur pratique, mais d'avoir ça dans leur stratégie, c'est très bien, mais il faut qu'ils travaillent et embarquent les équipes, parce que finalement, c'est les équipes, en fait, dans leurs effectifs qui vont effectuer, qui vont prendre en main, en fait, tu sais, et vraiment exécuter la stratégie. Donc, comment mieux accompagner les équipes, être sûr que si on pense, en fait, à tous les enjeux qui vont venir, qu'on est unifié dans les entreprises, en fait, au niveau de chaque structure, et on va en fait aller vraiment en fait ensemble. Donc pour nous, on voit que ça c'est en fait aussi en fait une des batailles assez importantes, c'est pas en fait qu'on pense en fait exclusion en fracture numérique, c'est que des seniors, des personnes très éloignées qui sont en fait dans une ville qui n'est pas connectée à Internet, ça c'est pas du tout en fait, et on veut casser ces stéréotypes, montrer que ça impacte aussi des gens qui sont en situation d'emploi aujourd'hui, mais qui voient en fait une digitalisation importante au niveau soit en fait des tâches, des logiciels, la manière dans laquelle ils vont travailler, ça va changer. On sait qu'en France, on parle en fait d'ici 2025 d'une requalification de jusqu'à la moitié des salariés. Au niveau mondial, c'est la même chose. D'ici 10 ans, c'est 1,2 milliard d'emplois qui vont être impactés par la digitalisation. Et dans ça, ça, c'est 50% des personnes qui ne vont pas avoir des emplois qui vont disparaître, qui vont être remplacés, mais c'est des emplois qui vont vraiment changer. La manière dans laquelle les personnes vont travailler vont changer et il faut que nous, en fait, tout le monde en fait, qui est concerné, en fait, c'est une série de personnes, soit capable d'adapter en fait, face à toutes ces évolutions.
Ouais, et c'est vrai que ce stéréotype de se dire qu'il n'y a que les plus de 60 ans qui sont concernés par le fait de ne pas maîtriser les outils du numérique, effectivement, c'est complètement faux. Comme tu dis, les stats, elles sont folles. Hein, voilà, 40 à 50% des gens, en tout cas en France, sont concernés. Donc c'est une stat folle, en fait. Et quand on s'y rend compte, quand on se rend compte de ça, on se dit, OK, ouais, il y a du travail, en fait.
Il y a beaucoup de boulot d'un côté. Peut-être on est sorti un peu de la crise en disant il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais d'autre côté aussi, c'est un peu, on a pris ça un peu dans le sens positif en disant qu'au moins, peut-être il y a plus de monde qui sent que c'est important. Et c'est plus facile en fait de les embarquer parce qu'on a des exemples très concrets. Du jour au lendemain, on demande aux gens de passer sur tous ces outils en visio, de faire en fait toutes les démarches en ligne. Donc on voit il y a cette tendance et c'est encore plus évidente.
Ouais, ça permet vraiment de mettre en lumière tous ces aspects de la fracture du numérique finalement. Donc c'est... Est-ce que tu peux me parler un peu des moments forts, donc 2021 et puis aussi 2022 pour Connexio?
Chez Connexio en 2021-2022, donc en 2021, on était super ravis de pouvoir lancer nos premières activités à Bordeaux. C'était en avril, on avait développé quand même, on a initié beaucoup de travail avec des partenaires locaux pour justement savoir comment Connexio peut être un acteur complémentaire dans l'écosystème existant. Et ensuite, on avait lancé aussi à Lille en octobre, en fait, les premières formations. Donc je pense pour nous, c'était des belles, avancées dans nos programmes. On a aussi lancé des nouveaux parcours de formation aussi. Et ensuite, cette année, on a continué un peu dans ce chemin-là. Donc, on espère pouvoir justement développer nos premières activités avec qui on travaille avec des acteurs locaux à Nantes. Et aussi, on avait lancé dans deux nouveaux pays. Depuis 2019, on avait commencé nos premières actions à l'international au Malawi en Afrique. Cette année, on avait lancé nos premières activités au Kenya, à Nairobi. En printemps. Et là, en fait, on a commencé aussi à initier nos premières activités en Jordanie, à Amman.
Ok, donc de très belles étapes. Outre la France, il y a aussi une partie internationale qui est importante.
Oui, et pour nous, je pense derrière, il y a quand même cette fierté aussi d'avoir des équipes qui ont accompli un peu ça. Donc, on est un peu moins de 50 personnes aujourd'hui dans les équipes. Mais je pense qu'une équipe aussi très internationale, plusieurs nationalités, d'expertise, de parcours aussi. Je pense qu'on veut aussi travailler aussi pour avoir plus de diversité chez nous aussi. Pour refléter aussi ce qu'on voit en fait et ce qu'on veut avoir dans le monde. Donc je pense qu'on n'aura pas réussi à faire ça sans en fait toute l'équipe derrière et bien sûr nos partenaires en fait avec qui on travaille depuis et certains qui nous ont soutenus depuis le début.
Ce qui est important, les partenaires qui arrivent dès le départ, c'est marquant quand même. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu du fait de comment est-ce qu'on candidate? Pour faire une formation chez Connexio, combien ça coûte et qui sont un peu les gens qui candidatent justement chez Connexio.
Oui, donc pour candidater, il y a plusieurs manières en fait d'arriver chez nous. Donc il y a beaucoup de monde qui vont aller directement un peu sur notre site web aujourd'hui, donc connexio.eu. Ensuite, il y a aussi en fait beaucoup de notre travail avec des partenaires. Donc ça peut être Pôle emploi, les missions locales, les acteurs vraiment en fait très localisés aussi, qui vont en fait aussi en fait soit leurs bénéficiaires, leurs adhérentes aussi, les personnes avec en fait ils vont en fait des personnes ils vont accomplir en fonction de la structure. Sur certains en fait ça peut être aussi les réseaux sociaux d'aller découvrir Connexio sur nos différents réseaux sociaux. Et après aussi beaucoup en fait bouche-oreille aussi des personnes qui découvrent à travers d'autres personnes dans leur réseau. Pour nous en termes de coûts, parce que je pense qu'une mission qui était assez clé depuis le début de Connexio, c'est que on veut justement en fait rendre nos formations accessibles à tout le monde qui en souhaite. Donc pour nous, pour les apprenants en tout cas, parce qu'on va trouver en fait derrière, on va tâcher de trouver en fait des financements publics et privés derrière, mais il n'y a pas de coût pour les apprenants. Parce que justement, en fait, on veut que le fait de pouvoir, pour nous, au bout d'un moment, on pense qu'il y a un droit presque universel de pouvoir, en fait, être inclus dans ce langage numérique aujourd'hui Et c'est en fait un doigt qui doit voir tout le monde. Donc comme on croit en ça, je pense que derrière, en fait, c'est aussi notre boulot qui devient aussi un peu plus, en fait, avec les années, en plus des challenges parce qu'on veut avoir plus de monde qui soit formé et gratuitement. Voilà, donc c'est un peu ces différents modèles. Et aujourd'hui, je dirais vraiment, comme je pense que, comme tu avais suggéré, hein, qu'il n'y a pas vraiment, en fait, on a des profils très variés en termes d'âge, en termes de niveau d'éducation, des parcours aussi. Par exemple, sur certains de nos parcours, on a des personnes qui étaient dans tous secteurs d'activité avant, certains peut-être dans le numérique, mais pas sur les mêmes postes, d'autres qui étaient des boulangers, coiffeurs, journalistes, vraiment tout métier aujourd'hui.
Des reconversions aussi.
Oui, exactement. Des jeunes aussi qui débutent aussi. Dans différents pays. Donc, vraiment, pour nous, c'est, il n'y a pas, je pense, oui, il n'y a pas peut-être un caractéristique qui nous, en fait, on a aussi dans certains de nos programmes aussi des personnes en situation de handicap. Dans certains de nos territoires, ça figure en fait d'une manière assez importante parmi les apprenants. Donc, vraiment, en fait, on veut rendre en fait le numérique accessible et on l'adapte en fonction de parcours. Voilà. Mais je pense que quand même, il y a cette, je pense que quelque chose qui unifie, c'est quand même cette motivation, quand même, apprendre, parce que pour nous, on n'est pas en fait là pour en fait vous aider juste un peu, en fait vous débloquer une situation. C'est pas dans la médiation où on travaille en fait. On va orienter nos apprenants vers ces acteurs là mais on croit vraiment en fait sur l'importance de gagner en autonomie numérique. Et donc ça, c'est un travail plutôt en fait de plus et c'est pas super long non plus, mais c'est quand même plusieurs séances, ça peut être sur plusieurs semaines. Donc des gens qui sont motivés, qui ont un projet comme professionnel de pourquoi j'utilise ça. Comme ça, en fait, pour eux, c'est clair. Et en fait, comme ça, ils peuvent en tirer le plus de nos formations.
Ouais, Connexio va être la première étape, finalement, pour la suite sur les sujets du numérique.
Oui, et on a des apprenants aussi, peut-être on a trois grandes voies, des personnes qui vont aller en fait après nos formations, soit en fait en retour en emploi ou en fait en changement de poste parce que justement en fait ils voulaient en fait cibler un autre métier, des personnes en fait qui vont continuer sur un parcours en fait de formation parce qu'on a des apprenants par exemple qui n'ont jamais eu un diplôme en France et donc pour eux c'est important en fait de pouvoir utiliser ce qu'ils avaient acquis pour aller plus loin dans leur parcours éducatif. Et en dernier, on a aussi des entrepreneurs, aussi des personnes qui ont besoin d'avoir un toolkit, une boîte à outils assez générale pour pouvoir en fait aussi lancer leurs propres activités.
Ok, intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Connexio ? Alors, pas de chiffres financiers, plutôt des chiffres humains. Moi, c'est ce qui m'intéresse, donc plutôt...
Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, en termes de nos activités, on a en fait donc cette présence dans 4 pays, une quinzaine de villes, 40 sites d'activités de formation. Et maintenant, je pense que je dois chercher les chiffres, mais près de 3500 parcours de formation réalisés dans nos en fait, différents sites. Et en termes de suivi, 6 mois après la fin de la formation, on a un suite de 72%. Donc, ça veut dire en termes de où nos apprenants sont, soit en fait en emploi, formation qualifiante ou en entrepreneuriat.
Super, génial. Et c'est quoi les objectifs futurs du coup pour Connexio ?
Donc, on a quand même cette ambition d'attendre prochainement, dans les prochaines années, 10 000 bénéficiaires, 10 000 personnes. Pour nous, on a aussi cette volonté de continuer en fait à travailler sur notre présence géographique. On reçoit d'autres demandes aujourd'hui. Et pour nous, en fait, l'objectif, c'est comment on peut être capable de répondre à tous ces besoins aussi, parce qu'on veut aussi procéder et être sûr, on est solide dans en fait le développement et on va pas trop vite non plus, parce qu'on risque de pas faire en fait si bien en qualité. Donc, mais pour nous, en fait, on veut quand même avoir cette volonté de pouvoir être en fait d'ici les prochains 5 ans, par exemple, avoir des activités dans 10 pays. Une quarantaine de villes dans le monde aussi, où il y a justement en fait cet écosystème, ces collaborations en fait avec d'autres acteurs locaux aussi avec qui on travaille.
On va pouvoir passer à la partie bilan. Et la première question, c'est est-ce que tu peux me parler du moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
Je pense que j'avais eu plusieurs moments difficiles. Parmi certains moments, je pense que, et peut-être certains ont voulu citer ça, c'était quand même aussi pendant le Covid. Parce qu'il y a un moment où c'est un peu difficile d'avoir une stratégie quand la stratégie et la situation autour de la stratégie changent. Donc c'est comment en fait, mais je pense que c'était quand même pour ceux qui ont vraiment en fait vécu un peu cette expérience et un peu les leçons qu'on a pu attirer de ça, c'est quand même de vraiment en fait comment gérer en fait une situation plus de crise aussi, c'est, en fait à plusieurs niveaux, parce que c'est en fait un enjeu opérationnel, c'est un enjeu vraiment financier aussi. Et donc comment en fait vraiment en fait être capable de planifier, et pour nous en fait au moment il fallait avoir plusieurs scénarios quoi, c'était simplement il fallait pas juste avoir un plan A, parce que si jamais le plan A changeait, qui était souvent le cas en fait avec les changements, il fallait en fait vraiment en fonction de plusieurs scénarios faits, donc en fonction de qu'est-ce qui peut passer, avoir en fait au moins 3 et de dire en fait au moins on avait planifié toutes les étapes, donc si on sait que ça va être annoncé aujourd'hui, d'ici les prochaines 5 jours, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que ça, pour, même si dans ces moments d'incertitude, ça a aidé en fait à mieux planifier pour tous ces moments-là. Et après, je pense pour moi, peut-être ça, c'est un niveau plus personnel, peut-être je compte un peu moins, parce que je sais que je suis en fait peut-être, après, tout est relatif, mais je pense que quand j'ai lancé Connexio, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'affection pour mes équipes aussi, mais ce que tu apprends qui est quelquefois dur en fait quand tu es dirigeant, c'est parce que en fait j'aime bien mes équipes, je pense que une des choses pour lesquelles je suis fière, c'est en fait on a des équipes qui sont super engagées, qui travaillent super bien ensemble, mais quelquefois en fait on peut voir des scénarios en fait, mais c'est peut-être classique dans le monde juste de travail aussi, que il y a pas tout en fait, les personnes qui arrivent qui sont des bons fits, et donc c'est toujours dur parce que tu dis aussi c'est toi qui m'as recruté, ou que peut-être il y avait des choses qui étaient pas si en fait faciles en fait à percevoir en fait au moment de recrutement, qui fit pas, et donc pour moi c'était toujours en fait pas si simple, et j'ai pris du choix beaucoup sur moi de dire mince, ça marche pas, et je dois en fait pouvoir en fait faire une décision qui est peut-être pas bon pour une personne en soi, mais vraiment ce qui va être en fait bon pour la structure, pour l'organisation en fait, d'une manière plus large.
Ouais, tes deux réponses, je les ai eues à plusieurs reprises, justement, comme tu disais, dans le podcast. La première, effectivement, sur le côté complètement imprévisible de la situation, qui faisait qu'effectivement, il fallait avoir plusieurs stratégies, parce que, voilà, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait la semaine d'après. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la deuxième, c'est la gestion de l'humain, qui est potentiellement la chose la plus complexe dans l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi imprévisible qu'une pandémie. donc ouais, c'est des choses qu'on a déjà eues sur Serial, et c'est intéressant justement de faire des focus là-dessus, sur aussi les... On parle des moments cool, hein, mais on parle des moments difficiles aussi, c'est bien. Et la deuxième question, c'est plus sur la fierté. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui, sur ton parcours, sur Connexio, et sur ce que tu as fait ces dernières années?
Je pense vraiment c'est les histoires dont nous apprenons, parce que quelquefois en fait quand tu es vraiment sur des sujets, des dossiers, les différentes choses, on peut oublier même pour nos équipes aussi quelquefois pourquoi on est là au fond, et je pense on a en fait tellement en fait des belles histoires aussi de nos apprenants, certaines qui reviennent et qui sont aussi des assistants formateurs, formatrices pour des futurs promos, des personnes qui ont fini les parcours qui reviennent en tant que bénévoles aussi pour des futurs. Je pense tous ces changements, ça montre aussi ce qu'on veut créer, c'est pas juste des formations un peu classiques, mais je pense que vraiment créer en fait un peu cette motivation de créer en fait une communauté autour, de vraiment essayer de faire plus du give back. Donc je pense que je suis fière en fait que on a en fait vraiment des apprenants qui ont bien réussi, ils ont pu en fait vraiment en fait avancer dans différentes manières grâce à ça. Je pense que ça, c'est, je pense que là on, pour lequel on est là tous les jours, nous et nos équipes, et ce deuxième aussi d'avoir en fait réussi en fait à faire ça tout au début, en fait, dans un milieu que je connais pas, dans un pays où je connais personne, même pas trop la langue et tout ça. Donc, je pense que, mais c'est quelquefois, en fait, quand on a des choses, peut-être qu'on maîtrise moins, ou voilà, peut-être le fait d'être un peu naïf. Ouais, je pense que ça va assez loin, ouais.
Ouais. Je pense que c'est important parfois de l'être, tu vois, parce qu'effectivement, le challenge, je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté, parce que l'entrepreneuriat, déjà, c'est difficile. Alors, effectivement, entreprendre dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu connais pas, et avec un écosystème aussi, et des écosystèmes que tu connais pas, forcément, la tâche est d'autant plus difficile. Et effectivement, comme tu dis, si tu t'étais rendu compte avant de lancer Connexio de tout ce que tu allais traverser, Peut-être, effectivement.
Je ne vais pas lancer.
Donc, c'est bien, parfois, cette naïveté, tu vois. C'est important. On va passer sur la partie un peu plus inspirationnelle sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et la première, alors c'est une question très difficile, on me le dit à chaque fois, donc c'est très difficile. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure ?
Je pense que je vais parler en fait un de mes apprenants, parce que je pense que j'ai tellement d'histoires, en fait je peux choisir, chaque fois c'est plus difficile ça. Mais par exemple, je pense que j'ai beaucoup des exemples aussi de mes apprenants en fait ici en France, mais je vais parler peut-être d'un de mes apprenants en fait au Malawi. C'est quelqu'un qui s'appelle Stan. Quand je l'ai rencontré en fait, ça faisait 12 ans qu'il habitait en fait dans le camp réfugié en Djeleka. Et ce que je trouve en fait assez difficile, parce que je pense que aussi ça demande ces questions justement quand on est en fait dans différents pays, je pense que ça donne aussi ces côtés en fait de, d'un côté oui c'est différent, mais d'autre côté il y a beaucoup de choses qui sont universelles un peu partout, et le fait qui est un peu dommage, parce que ce qu'on voit c'est il y a des super talents un peu partout, mais on n'est pas né avec les mêmes en fait opportunités, accès, réseau, etc.
Les mêmes chances.
Exactement. Et pour moi, je pense que c'est quelqu'un de brillant. En fait, il a en fait beaucoup réussi en fait le programme, parce qu'il est aussi parmi justement les personnes qui sont revenues et qui sont devenues formateurs pour des futures cohortes. Et pour moi, en fait, le fait que en fait au début, parce que même s'il était brillant, il pouvait pas travailler dans en fait au Malawi avec les différentes règles, le fait en fait d'être en fait dans des situations un peu différentes, parce que dans un camp en fait c'est pas si stable, en fait on sait pas si on va être en fait voilà demandé de en fait d'être mobilisé ailleurs, mais après pour lui le fait qu'il a pu en fait finir le programme, parce qu'on travaille en fait pour aider dans ces autres pays aussi, d'aider des gens à travailler en ligne soit sur des plateformes de freelance ou autres avec nos partenaires, mais pour nous en fait le fait d'avoir fait ça, d'avoir en fait passé un peu pour lui en fait et donné un peu ses clés de pouvoir travailler en ligne, de pouvoir en fait gagner bien sa vie, aujourd'hui en fait il est marié. Il a construit une maison, en fait. Il a vraiment avancé. Il est, en fait, un membre assez important dans cette communauté. Donc, ce qu'on crée, c'est aussi, oui, c'est un peu l'impact sur sa vie, mais c'est aussi, chaque fois, en fait, on voit que c'est pas juste une personne, en fait, c'est sa famille, les gens qui sont autour de lui, et aussi l'impact qu'il peut avoir pour encourager d'autres personnes de dire, en fait, j'ai un parcours, en fait, il est un peu expert, en fait, dans certaines, en fait, missions en termes de tout ce qui est, en fait, transcription, en fait, traduction aussi est certifiée, donc en fait il y a des projets où il gagne en fait facilement des centaines de millions d'euros aujourd'hui, mais je pense qu'il a vraiment en fait été un exemple pour nous de quelqu'un en fait qui avait quand même pas les meilleures conditions, et même malgré ça, même pendant le Covid, parce qu'on avait commencé en fait une partie de nos programmes pendant le Covid, il a en fait réussi et il voulait aussi revenir pour aider les autres. Donc je pense que c'est un peu ces histoires là lui et en fait et en fait beaucoup d'autres en fait de nos apprenants qui en fait eux-mêmes sont des rôles modèles dans nos écosystèmes, et on veut continuer à proposer ça.
Ouais, c'est des parcours très inspirants, et justement la question d'après c'était qui sont les gens qui t'inspirent, mais finalement c'est relié, c'est j'imagine beaucoup aussi des apprenants de par leur parcours, de partir d'un camp de réfugiés à ensuite de un changement de vie complet, tu vois. Est-ce que tu peux on dirait un peu.
Oui. Non, je pense que c'est oui, je pense que beaucoup de nos apprenants en fait, parce que pour certaines en fait, il y a justement en fait, je pense qu'en France aussi on voit, c'est quelquefois on a des barrières, d'autres types de barrières justement, parce que soit en fait on n'a jamais travaillé encore en France, ou en fait peut-être pour certaines ils veulent changer en fait et faire une reconversion. Par exemple, on avait une apprenante, elle était serveuse dans un bar, mais elle était passionnée par le numérique, donc on a accepté dans notre formation, parce qu'on voit que quelqu'un en fait qui a cette motivation, cette appétence, il n'y a pas besoin qu'on doit en fait passer et faire en fait tout un parcours en sciences, en maths, en voilà. Et elle a été la première de sa promo de crocher un CDI. Donc je pense que c'est un peu ça en fait, d'aider des gens aussi à eux-mêmes en fait, d'aller plus loin, dépasser en fait. Et je pense pour nous, ça vient de eux quand même. C'est juste on veut être un peu catalyseur de tout ça.
Ouais, la motivation et la détermination, c'est des facteurs qui c'est des facteurs qui peuvent justement amener à la réussite. Donc, c'est important. Et la dernière question par rapport à cette partie, c'est est-ce que tu as un conseil à me donner pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ?
Donc, je pense qu'il y a un que je donne assez souvent maintenant, c'est un peu, donc en anglais, c'est un peu « start before you're ready », qui est un peu, en fait, qui peuvent être un peu paradoxe parce que comment tu commences quand si tu n'es pas prêt. Mais c'est juste, quelquefois, je échange avec des entrepreneurs qui, quelques mois après, parce que j'ai eu un peu une première version de projet, ils vont me dire « oui, mais j'attends ça avant que je lance officiellement. » Et pour nous, en fait, c'est un peu dans tout le mode Lean Startup, le fait d'avoir en fait un MVP, donc ouais, une première version d'un produit viable. Je pense que le magique, c'est plutôt dans j'ai lancé, il faut que je itère super rapidement et je perfectionne mon produit. C'est là où il y a en fait tout le travail derrière, mais je pense qu'une première étape, même si on pense que le premier très très grand étape peut être le lancement déjà, mais je pense qu'il y a une étape qui est encore plus importante, qui est tout le travail derrière. Donc pour moi, c'est comme aussi tout l'aventure d'entrepreneuriat, c'est vraiment marathon aussi. Donc si tu veux lancer dans ça, en moyenne, on dit quand même c'est entre 7 et 10 ans. Donc être préparé en fait pour. C'est pas un truc dans 6 mois, je change. voilà, il faut que tu aies vraiment cette passion aussi pour aller plus loin parce que dans les moments durs, si tu n'es pas convaincu parce que tu fais la mission plus profonde que juste peut-être je veux dénuer en fait être riche rapidement, ça ne marche pas.
Ouais, et c'est clair que c'est ce que tu as fait au final avec Connexio, c'est-à-dire c'est cette première phase de test de 2 ans qui ont permis en fait de faire évoluer le produit sur les premières années et de faire ce que Connexio est aujourd'hui en fait. On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
J'ai plein de livres. en fait, un que j'aime bien, que je cite souvent, mais quelquefois je change, en fait, j'essaie de changer les recos comme ça, je ne dis pas toujours en fait, les mêmes livres. Mais je pense qu'il y a quand même un que j'aime beaucoup, c'était écrit par Ben Horowitz. Mm-hmm. Je pense que tu connais, c'est The
ça
Hard Thing
chose,
of Hard
Things. Oui, oui, ok.
Et j'ai lu ça, je me dis, ah oui, en fait, tu me parles les enjeux, j'aurais dû lire ça 6 mois avant, quoi. Donc, ça, quand même, ça te met en fait un. Certaines questions, même si c'est un peu des questions peut-être presque logistiques, admin, c'est des sujets en fait assez importants en fait, à traiter au bout d'un moment dans l'esprit entrepreneuriat.
Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Pas forcément relié à l'entrepreneuriat, mais qui t'aurait marqué tu vois, ces derniers temps.
Un film ou une série ? C'est une bonne question en fait. Je pense que je suis peut-être un peu moi-même, un peu moins film ces derniers temps. Non, je pense que pour moi en fait, je sais que j'aime bien en fait suivre quelquefois en fait les parcours des entrepreneurs. Donc j'étais un peu fascinée. Donc je ne sais pas si je recommande en fait dans la totalité, mais je sais qu'il y a par exemple un récent série qui est sorti un peu sur Uber entre
oui,
We Crashed, un peu tout ça. Je trouve que c'est un peu intéressant d'un peu observer un peu l'intérieur, avoir en fait un autre regard sur ses parcours, parce que même si en fait c'était, je sais pas si un bilan plus négatif ou positif, mais ça montre un peu toutes les étapes, en fait, les babas, les os aussi, qu'on va en fait être confronté en fait au bout d'un moment. Donc je trouvais que c'était à la fois un peu, oui, c'est un peu Hollywood, c'est du storytelling, mais il y avait aussi peut-être des choses à apprendre là-dedans. Après, en fait, il y a une série américaine, je trouvais intéressante, mais j'ai regardé quelques épisodes qui s'appellent Ted Lasso. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne beaucoup de leçons de vie un peu intégrées dans la série aussi.
Okay. Plus développement personnel, on va dire.
Oui.
Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a plusieurs séries sur des startups, sur des parcours d'entrepreneuriat qui sont sortis, bah, notamment sur WeWork aussi et sur Theranos.
Ouais.
Des parcours très différents, mais intéressants de voir aussi. Voilà, ces histoires qui sont assez, assez folles, finalement. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment ?
Là, c'est vraiment un peu de tout. J'ai toujours, en fait, je suis quelqu'un, je ne peux pas en fait, être silent, donc j'ai toujours un casque.
Ouais, okay.
Donc ça peut être... de temps en temps, quand je n'ai pas bien mis mes écouteurs, tout le monde dans les bureaux vont aussi écouter ma musique avec moi.
Ils n'ont pas le choix.
Ouais, c'est ça. Non, ça peut être vraiment du rap. Jusqu'à la musique classique, jusqu'à reggaeton, donc j'aime pas de... En fait, j'aime bien changer.
Ouais, ok. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ?
Ouh, ça c'est une bonne question. J'aime bien, en fait, des modèles comme Tom's. Mm-hmm. En fait, ils avaient créé en fait cette marque où pour chaque paire de chaussures vendues, ouais. en fait, ils vont faire un don en fait quelque part d'autre pour quelqu'un qui a pas. En fait, c'est voilà. Donc je trouve que c'était super smart comme concept. Voilà.
Ok. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée potentiellement? Si on n'a pas, il n'y en a pas, c'est pas grave.
Comme ça, non. Peut-être tu m'avais déjà posé peut-être la question de où est le futur chez Kinexio.
Ouais.
Mais après, non, je pense que... Ouais, je pense que c'est un peu... peut-être aller un peu dans le même sens aujourd'hui, quelque chose. Et peut-être pour les lecteurs aussi qui sont intéressés en fait, par ça et même les manières de collaborer avec nous. Il y a bien sûr en fait, ceux qui sont intéressés par nos parcours de formation qui peuvent candidater. Mais on cherche peut-être pour ceux qui... En fait, sont dans des entreprises actuelles, on a aussi des activités, on engage beaucoup avec les collaborateurs, soit en fait dans une démarche plutôt RSE pour en fait faire des ateliers en fait plutôt soft skills avec nos apprenants, de faire en fait du mentorat. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées de nous approcher pour en fait savoir un peu plus sur ce qu'on fait et comment on peut faire un partenariat. Et enfin, c'est et même le recrutement de nos talents. Pour certains, en fait, qui cherchent des artisans. Et enfin, c'est de dire aussi aujourd'hui, en fait, pour nos besoins, en fait, pour les besoins, par exemple, même au sein des entreprises aujourd'hui, sur les montées en compétences, sur les leur accompagnement dans la digitalisation, on serait ravis aussi d'en discuter.
Oui, donc il y a toute une partie aussi B2B, finalement, outre la partie apprenant qui est intéressante. Donc, effectivement, si des entreprises sont intéressées pour devenir partenaires de Kinexio, bah, qui n'hésitent pas, on mettra les bons liens, dans tous les cas, en description de l'épisode. L'avant-dernière question, c'est est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes?
J'ai plusieurs, je pense. Je ne sais pas si tu avais déjà échangé avec Christian Vanizette de Make Sense.
Non, mais Make Sense, je connais. Je connais de nom, mais je n'ai pas encore échangé.
Je sais qu'ils viennent de fêter leurs 10 ans. Je trouve ce qu'ils ont fait assez incroyable. Il y a aussi Santiago, le fondateur de Change Now, le fondateur de Change Now.
Ah oui.
Aussi.
Très voilà. Bien.
Ouais. Ça fait deux juste comme ça, mais oui.
C'est très bien, c'est parfait. Et la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Pour moi, je dirais en fait un entrepreneur, et peut-être ça c'est ma définition, c'est, et je trouve ça c'est la partie un peu chouette parce qu'on avait dit qu'il y a des parties un peu plus difficiles en fait à gérer dans ce job, tous les changements, les incertitudes, mais pour moi en tout cas chez Kinexio, et un peu, c'est un peu le mot aussi, jouer sur le mot, c'est le fait que je peux être dans ce rôle de vraiment échanger et essayer de connecter des gens, des structures, des mondes, des secteurs d'activité, rassembler, fédérer des gens et les mettre ensemble, qui sont en fait normalement pas dans la même salle, même endroit. Et je trouve ça super cool.
Et ben, ce sera le mot de la fin, enfin les mots de la fin. Merci beaucoup Jean pour cette discussion, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu aussi toi qui nous a regardé pendant cette, ou écouté pendant cette petite heure. Comme je l'ai dit, on mettra tous les bons liens en description et puis on se retrouve bientôt sur Kinexio et puis sur Serial Entrepreneur. Salut Jean.
Merci beaucoup.